Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 65. Cette émission est avec un duo, Edith Nuss et Philippe Gablin, les deux fondateurs et respectivement le CEO et CTO de Mighty Watch. Mighty Watch, c'est quoi? C'est une agence qui propose des services de veille, conseil, mesure et community management pour les entreprises. Avec tous les deux de longues carrières dans le marketing, la communication et le monde du web, ils ont développé une offre intéressante et ils ont récemment été primés pour leur produit de veille. On y discute de comment les entreprises peuvent et doivent s'adapter aux nouvelles tendances et comment mieux mettre en place un dispositif de veille et de community management. Bonne écoute! Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog minterdial.fr où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais themindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Ce matin, on est dans le mois de juillet et je suis avec deux personnes qui sont les fondateurs et patron d'une société qui s'appelle Mighty Watch. Donc, Edith Nuss et Philippe Gablin, je vous prie de vous présenter.
Bonjour, je suis Philippe Gablin. Donc moi, j'ai 15 ans d'expérience dans le développement Internet. Je suis un développeur. Et ça fait 2 ans que j'ai rencontré Edith autour de ce projet Mighty Watch pour essayer de tirer de la valeur des médias sociaux.
Edith?
Bonjour, je suis Edith Nuss, donc je dirige Mighty Watch et j'ai eu 15 ans d'expérience dans le e-marketing. Avant, j'ai fait pas mal de conseils en management depuis pas mal de temps.
Donc, le business qui se marie avec la technologie et puis on a des liens séparément ensemble parce que Philippe, je t'ai mis en contact par Yannick, notre ami en commun. Et Edith, nous avons fait la même école à Fontainebleau. Les plaisirs. Bon, alors, donc Mighty Watch, explique-moi ce que c'est, Philippe.
Alors, Mighty Watch, c'est un service qui permet d'utiliser les médias sociaux pour fabriquer de la valeur. Alors, Mighty Watch, il y a trois parties principalement. Une partie de veille qui repose sur un outil sémantique très novateur. Il y a une partie d'engagement et puis il y a une partie d'insight pour pouvoir mesurer les actions qu'on a menées sur les médias sociaux.
Et vous avez quel type de clients? Elles sont basées en France et quel type d'industrie vous avez comme clients?
Alors pour l'instant, on est jeune, on a des clients qui sont principalement basés en France. On a des clients dans le domaine de la banque, finance, dans le domaine pharmaceutique, dans les médias, le divertissement aussi beaucoup.
Ouais. Et votre outil, donc ce qu'on avait parlé avant, est disponible en français et en anglais, c'est ça?
Voilà. On est capable de récupérer les messages et de les classer dans très nombreuses langues. Le module sémantique aujourd'hui est capable d'analyser le sentiment en français et en anglais. Et là, très bientôt, on va le faire sur une dizaine de langues.
Et l'outil sémantique, il est propriétaire à vous ou c'est en marque blanche chez quelqu'un d'autre?
Oui, on l'a développé en interne et d'ailleurs on vient d'être lauréat du concours du ministère de la Recherche pour cet outil sémantique. L'avantage de cet outil, c'est qu'il permet de faire de ce qu'on appelle du cold start, c'est-à-dire de commencer un projet pour nos clients très rapidement et d'être efficace très rapidement sans avoir à travailler pendant 6 mois pour mettre en place des ontologies très lourdes et peu flexibles finalement.
Et est-ce que c'était sur cet aspect cold start que vous étiez primé?
C'est sur cet aspect-là, cet aspect d'apprendre, ce qu'on appelle l'apprentissage opportuniste, techniquement, et aussi sur sa capacité à travailler sur des très gros volumes de données. On essaye de se rapprocher du big data.
Bravo pour le prix. Alors, donc Mighty Watch, parce qu'en fait, finalement, il y a pas mal de gens qui sont sur ce créneau de la veille, de l'engagement, le community management. Même en France, pour ne pas citer les Américains, etc. Alors, Edith, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les points de différenciation de Mighty Watch?
L'origine de la création, ça a vraiment été une approche d'intégration dans le fonctionnement d'entreprise et de productivité. Donc, dès le début, on a vraiment réfléchi à comment faire pour faciliter le travail de chaque personne et s'intégrer dans les fonctionnements actuels, que ce soit quand on est au marketing, au commercial, au service après-vente, même à la direction générale. Et donc, c'est vraiment notre différenciation est là, dans la capacité à intégrer nos flux et à intégrer aussi les fiches que nous avons dans les CRM, dans les fonctionnements habituels, que ce soit le mail, les tableaux de bord, ou tout ce qui peut exister dans une entreprise actuelle.
Donc l'intérêt, maintenant on a un beau sapeur-pompier juste dehors, excusez-nous pour le bruit. L'intérêt, c'est que vous avez votre système, vous récoltez, vous envoyez le message et ça s'intègre dans les systèmes. Donc, en fait, c'est assez technologique dans ces cas-là. Quel est le degré de difficulté, techniquement, de s'intégrer dans l'Outlook ou les systèmes informatiques dans les entreprises?
Alors, ce n'est pas si compliqué parce que beaucoup de systèmes, surtout si on prend les autres canaux de création de trafic qui sont des canaux de print, de publicité, etc., on peut déjà récupérer des données. Donc nous, déjà, nous intégrons ces données-là à des autres canaux et nous pouvons intégrer à des mails. Les plateformes mails ne sont vraiment pas complexes à mettre en place. Il y a maintenant des langages qui sont et des passerelles qui sont déjà très simples pour discuter entre les différents services informatiques. Nous, on a pas mal l'habitude de travailler avec des DSI, mais ce ne sont pas nos clients primaires. Ce sont vraiment les directions marketing qui sont le plus intéressés et les moteurs là-dedans.
Alors, donc, par rapport à Mighty Watch, vous êtes face à des clients qui utilisent votre système, enfin, vous prospectez les clients. Quels sont les freins que vous découvrez le plus souvent par rapport à pourquoi je ne veux pas le mettre en place? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que tu entends, Philippe? C'est toi qui veux répondre à ça?
La plupart des réticences sont des réticences culturelles. Les médias sociaux, c'est nouveau, on ne sait pas trop ce que c'est encore un nouveau truc. Voilà. Et puis il y a cette idée que les réseaux sociaux, c'est gratuit. Pourquoi je dépenserais de l'argent pour un outil pour les réseaux sociaux alors que les données sont disponibles gratuitement? En fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout gratuit, surtout quand on commence à avoir du volume et que quand il faut traiter 200 000 messages, il faut du monde. C'est là que nous, on intervient. C'est pour de la productivité, c'est classer les messages, c'est...
On n'est pas gâtés pour le bruit ce matin. Ouais, je ne sais pas, c'est encore un autre... Oui, c'est encore du feu. Voilà l'incendie. Voilà. Continue, excuse-moi.
Voilà, donc... encore un qui n'a pas... Voilà, bon. Donc, donc les principaux freins donc sont plus des freins, on va dire, culturels. Et c'est pour ça que nous, on essaye d'intégrer les médias sociaux dans les flux traditionnels de l'entreprise. Je dirais, il ne faut pas avoir peur d'être low-tech pour pouvoir aller vers des canaux de communication comme le mail qui peuvent paraître un peu vieux, mais qui finalement sont ceux avec lesquels les gens ont l'habitude de fonctionner. On est toujours très étonné de voir autant d'informations sous Excel dans les entreprises, alors que c'est quand même un produit qui a 30 ans. Et donc c'est comme ça qu'on peut finalement petit à petit rentrer dans les entreprises en n'étant pas quelque chose de plus, mais en s'adaptant à l'existant.
Alors, dans le... Tu as mentionné les médias sociaux. Quels sont exactement les médias que vous repérez, que vous identifiez? Et parle-nous spécifiquement de ceux qui sont les plus intéressants. Est-ce que ça dépend de l'industrie? Quels sont les réseaux? Enfin, pardon. Quels sont les médias que vous regardiez en fait le plus et que vous reporteriez par rapport au client?
Oui. Alors donc Mighty Watch permet d'analyser Twitter, Facebook, Google+, YouTube, les blogs, les sites de news et leurs commentaires et les forums. Voilà. Alors effectivement après ça dépend beaucoup de l'industrie. Lorsqu'on travaille pour l'industrie pharmaceutique, on va avoir beaucoup de messages sur les forums.
Donc avec des sites comme Doctissimo, d'autres en particulier?
Exactement. Et puis même là, on va apparaître des médias sociaux spécifiques sur la santé. Et puis sur d'autres domaines, on va être principalement sur du Twitter. Twitter qui, par exemple, peut reprendre un très gros volume d'informations lorsqu'on travaille sur des émissions de télévision, télé-réalité. On a quasiment 95% de Twitter.
Voilà. C'est là où ça se passe pour tout ce qui est télévision?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Twitter est intégré de plus en plus dans le dispositif de ces émissions. On l'a vu avec TF1 et M6 qui diffusent les hashtags dans les émissions et qui aujourd'hui ont des objectifs d'audience sur Twitter autant qu'à la télé.
C'est quand même fou parce que la télé, ça a une pénétration bien plus. Twitter, enfin, j'estime peut-être entre 6 et 7 millions en France. Et donc, ils payent beaucoup plus attention, selon toi, les médias, la télévision, à ce qui se passe sur Twitter.
Oui, je pense qu'ils ont compris que c'était un élément très important de la fidélisation de l'audience, surtout sur ce type d'émission, où c'est très important entre chaque prime de gagner de l'audience, de conserver les anciens téléspectateurs et d'en gagner de nouveaux. Et donc, effectivement, tout le buzz qui est fait sur Twitter permet de ramener au fur et à mesure de l'émission des nouveaux téléspectateurs. Il se passe quelque chose, même ceux qui ne regardent pas, parce que ça devient un trending topics, vont aller regarder l'émission. Et donc, grâce à Twitter, il se passe quelque chose qui se passe très peu normalement à la télévision, c'est qu'au cours de l'émission, on gagne des téléspectateurs.
Oui. Et alors, est-ce que, par rapport aux autres médias, parce que tu as mentionné Google+, mais parmi d'autres, est-ce que vous avez une hiérarchisation, vous pondérez, comment ça se passe?
Oui, alors, Pour effectivement distinguer les messages les plus importants des moins importants, on fait un scoring. Et l'important de ce scoring, c'est qu'il permette de comparer des choux et des carottes, Twitter, Facebook et des blogs. Et donc, on a un scoring qui prend en compte et la pertinence du message par rapport au sujet qu'on étudie. Si on cherche plutôt des leads, on va surpondérer les messages exprimant des intentions d'achat.
Ça, c'est selon l'objectif du client, alors?
Exactement. Pour chaque client, on va déterminer des objectifs et donc un système de notation. Et le deuxième système qui, lui, ne dépend pas du client, c'est de déterminer la résonance du message. Donc nous, on s'intéresse finalement assez peu à l'influence des personnes sur les médias sociaux, hein, comme le ferait Clout, le système d'influence. Hein. Et on va plutôt, nous, regarder la résonance du message. C'est le message qui nous intéresse, de savoir si ce message fait beaucoup de bruit, est beaucoup repris, et a touché, ou potentiellement va toucher beaucoup de monde.
Vous êtes capable de, s'il y a un tweet qui est passé, et ce tweet a été reposté automatiquement ou pas, sur LinkedIn et sur Facebook, est-ce que vous êtes capable de retracer?
Oui, on va se baser sur le contenu du message. Et par rapport au contenu, on va identifier que le contenu est identique sur plusieurs réseaux. Et donc, on va être capable de suivre un message entre plusieurs réseaux.
Donc, vous êtes capable de retracer, en fait, et peut-être retrouver le profil de cette personne sur un certain nombre de réseaux, à ce cas-là?
On y travaille.
C'est un beau truc, parce que par rapport à Clout, comme on va dire ici, c'est qu'eux, ils travaillent, c'est l'utilisateur qui s'identifie et qui met ses réseaux, tandis que là, on est sur le message d'une personne et c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir lier la résonance de cette personne, parce que peut-être son email est différent sur Twitter que celui sur Facebook et vice-versa. Et alors, juste anecdotiquement, Edith, peut-être si tu as envie de répondre, c'est Google+, est-ce que ça a un intérêt ou pas?
Pour l'instant, on repère peu de messages sur Google+. On s'est pensé à un moment donné qu'il y aurait une transmission, c'est-à-dire que les leaders d'opinion, qui étaient les early adopters sur Twitter, allaient passer sur Google+. Et en fait, ils sont sur Google+, mais ils demeurent encore très actifs sur Twitter. Donc on a vraiment l'impression que, notamment pour être... la capacité prédictive, c'est ça qui intéresse pas mal les entreprises. L'information est souvent d'abord sur Twitter avant d'être sur Google+, et puis peut-être qu'ensuite elle passe sur Facebook, sur Star Forum et sur les sites de news. Donc c'est ça qui est important pour les entreprises, de voir où l'impact, où l'influence va naître, pour voir justement, enfin vous voyez pour la problématique d'Air France, à quel moment peut y avoir un impact sur par exemple, le cours de bourse, quoi. C'est souvent sur Twitter que vient l'origine des choses.
Oui, en fait, là, il y a deux choses. Ce que j'entends en vous écoutant, c'est qu'il y a cette notion d'influence, la résonance et l'influence, mais il y a aussi cette notion d'avant-coureur, de pouvoir anticiper les tendances. Donc, on a parlé tout à l'heure de la politique. Et est-ce que vous avez d'autres typologies de clients qui pourraient être intéressés ou par une information chaude? Donc, et pouvoir réagir avec. Quels sont les autres types de clients, vous imaginez, auraient un intérêt pour ça?
Alors, il y a un point important là-dedans, dans la partie prédictive, c'est que si, par exemple, on travaille dans la grande distribution, où la problématique du halal est une problématique qui les a beaucoup... qui les intéresse beaucoup, on se rend compte que les gens qui sont actifs sur la thématique du halal sont aussi actifs sur d'autres thématiques. Et que... ces autres thématiques sont des thématiques qui sont avant-coureuses elles-mêmes, qui vont arriver. Et donc notre système, en permettant de repérer ceux qui sont actifs, permet de les suivre et de détecter les tendances qui vont venir. Même chose pour les crises et les crises à venir. On travaillait pour une banque qui avait des problématiques liées aux craintes du bank run. Et on s'est rendu compte très vite que certes, il y avait, enfin, que la, finalement l'inquiétude des clients n'était pas très grande. Les clients français sont plutôt, les banques françaises sont plutôt solides, tranquilles, mais que par contre les employés eux-mêmes étaient inquiets et l'attitude des clients vis-à-vis des employés se détériorait. Et ça, c'était des tendances qui étaient en train d'arriver, mais qui n'étaient pas remontées du terrain encore.
Est-ce que vous avez dans votre dispositif un moyen de repérer ce que fait, ce que disent les employés ?
Alors, repérer les employés spécifiquement, c'est un sujet.
C'est un beau sujet. Eh oui, qu'est-ce qui est derrière ce sourire ?
Non, la problématique, là, c'est sur des réseaux sociaux publics d'identifier une personne par rapport à son rôle. Alors, effectivement, on intègre des informations, par exemple, de LinkedIn, qui permettent, dans le cas où on a réussi à reconstituer un profil, d'identifier que c'est un employé ou pas. Voilà. On peut aussi le faire par rapport, on peut aussi se brancher sur des réseaux sociaux internes. On peut tout à fait se connecter à des Yammer ou Chatter ou autres, ou même à des messageries.
Alors, quand tu dis ça, ça me fait penser encore technologiquement. Combien de temps ça met pour mettre en place votre dispositif ? Parce qu'il y a un calage, calibrage, intégration. Combien c'est compliqué de faire ? Enfin, parle-nous, moi je ne suis pas technique.
Non, habituellement, le projet se met en place en 1 à 2 semaines, voire même beaucoup plus vite lorsque les données sont très simples. Voilà. Dès la première heure, on récupère des messages, on est capable d'identifier les thématiques et puis donc de commencer à répartir les messages. Après, la question, c'est plus une question d'organisation. Quelle est l'organisation qu'on veut mettre en place derrière ? Comment on va réagir à ces messages ? Est-ce qu'on y réagit via les médias sociaux ? Est-ce qu'on y réagit par d'autres canaux ? Comment on va mesurer la performance de tout ça ? Et ça, ce sont... Ouais, tu voulais pas de thématiques techniques, enfin de thèmes techniques, c'est pas de la technique.
Non, justement, alors par rapport à ça, parce qu'on a parlé des freins culturels qu'on pourrait avoir dans l'entreprise, Edith, comment est-ce que tu peux faire face, enfin, quelles astuces ? Tu es face à un client, il dit, ben voilà, si je veux bien, mais bon, ben, c'est compliqué chez moi parce que ma culture n'est pas adaptée. Quelles sont les astuces que tu peux dire, voilà, si tu veux que ça marche, voilà ce que je te propose.
Alors c'est vraiment de reprendre des pratiques actuelles, des pratiques qui existent déjà. C'est-à-dire que s'ils ont déjà l'habitude d'utiliser, ils utilisent de toute façon des médias, que ce soit la télévision, la radio, le mail, la publicité, en ligne. Donc de comparer, de dire nous intégrons dans le fonctionnement que vous avez déjà actuellement. Et c'est l'équipe par exemple qui gère la pub AdWords, il y a ça, qui va aussi gérer ça. Et d'ailleurs il y a des ponts entre les deux, puisque nous pouvons repérer les thèmes qui marchent bien, qui vont faire des mots-clés pertinents. Même chose pour le mail, si on fait de l'emailing, on peut gérer une plateforme qui fait de l'emailing et de la gestion du contact par les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, plutôt que de dire nous plaquons cet outil, c'est nous nous adaptons à votre organisation. Et c'est vraiment ce que les entreprises demandent.
Mais dans ce cas-là, ça quand même demande beaucoup plus de personnes d'être concernées dans la mise en place. C'est-à-dire vous avez le type qui vous a contacté, ah oui ça m'intéresse, Mighty Watch, je le veux. Mais en revanche, la mise en place, ça demande quand même système d'information, ça demande le service à la clientèle, ça demande la vente. Oui. Donc, comment, si tu es face à la mise en place, ça se fait comment ?
Alors, c'est en effet beaucoup d'évangélisation, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont très suspicieux, voire réfractaires, en tout cas un peu anxieux vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est encore ça, c'est une directrice de la com qui m'avait dit, mais ça remplace quoi ? C'est encore ça en plus. Donc déjà... leur montrer que ça donne une information qu'ils n'ont pas par ailleurs et que ça les met aussi face à des risques auxquels ils doivent répondre et qu'ils ne peuvent le faire que par ces canaux-là. Donc il y a déjà une évangélisation, un apprentissage qui peut prendre plusieurs mois. Très clairement, on pense qu'une entreprise n'est prête que si pendant 6 mois à peu près, alors 3 mois si elle est vraiment véloce, mais plutôt 6, elle s'est mise en contact avec ce qui se passait, elle s'est rendue compte qu'il y avait un impact, que pour ses concurrents aussi il se passait des choses et elle s'est peu à peu pénétrée du fait que, oui, c'était un canot comme un autre, et comme Internet est arrivé, il a fallu l'intégrer, les réseaux sociaux arrivent, il va falloir les intégrer.
Est-ce que vous êtes plutôt avec des PME ou des grands groupes ? Et si PME, est-ce que vous avez un produit adapté ou c'est toujours le même prix ?
Alors, pour les PME, on a un produit adapté, un package assez simple.
On parle de quel type de prix ?
Ça peut commencer à 200 euros par mois, très simplement. Mais c'est quand même plutôt les grands groupes. D'abord, c'est eux qui nous intéressent le plus commercialement, et parce qu'ils ont des problématiques complexes et qu'on peut aussi leur vendre des solutions plus coûteuses. Et il faut bien comprendre que c'est quand même Certaines PME nous ont contactés qui sont en B2B, qui sont, là, j'en pense à une qui faisait des moteurs de store. Et là, vraiment, il n'y a pas suffisamment de volume pour que notre solution les intéresse.
Donc, plutôt B2C que B2B.
B2C, tout à fait.
Oui. OK, alors, donc, je voulais conclure en juste vous demander une dernière petite question. Alors, je vais être un peu spontané. Est-ce qu'il y a des personnes, des sites qui vous inspirent et dont vous gardez-vous au courant de tout ce qui se passe? Quelles sont vos sources d'inspiration?
Ah mais moi, je vais plus sur les sites. Moi, je vais sur Twitter.
Ouais,
donc, effectivement, aujourd'hui, c'est ma principale source d'information, c'est de suivre et de communiquer avec des experts de mon domaine. Voilà. Et aujourd'hui, ça se passe par Twitter, en fait. Hein.
Alors, qui est pour enchaîner? Donc, comment on peut te retrouver?
Alors, on peut suivre MyTwinet, MyTwinet sur Twitter, MyTwinet. Edith et moi, on a aussi nos comptes personnels sur Twitter.
Qui est
Philippe Gablin, donc PHILI2PEGABL et le chiffre 1.
D'accord.
Et puis pour Edith News, c'est Edith.
Oui, moi, c'est Edith N, EDITHN. Il y a une société que j'ai suivie là récemment qui m'a paru intéressante qui s'appelle PEALK, P-E-A-L-K, qui est une société française qui a fait un outil au-dessus de LinkedIn de gestion des contacts pour les spécialistes de RH, bien plus efficace, qui marchait bien mieux et qui a de grands problèmes juridiques en ce moment avec LinkedIn parce que LinkedIn juge qu'ils sont en train d'enfreindre les règles d'usage de leurs API. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans les démos que j'ai vues de cette société, c'est qu'ils ont vraiment une interface très utile, très efficace. Ils se sont vraiment focalisés sur un besoin important des DRH, d'avoir des données qui viennent de partout dans le web, et notamment de LinkedIn, et de les intégrer dans le process de sélection. Donc pour moi, c'est très intéressant.
Je mettrai ça, mais enfin, ça ouvre un autre can of worms, c'est l'histoire de la API, parce que LinkedIn vient de faire tout ce qu'ils ont fait avec Twitter, Facebook en timeline l'année dernière. Est-ce que c'est pas un peu la nerf de la guerre pour vous aussi, puisque vous êtes dépendant de ces API?
Oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on est sensible aussi à ça et on est très très soucieux de respecter les règles d'usage des API. Mais en même temps, aucun réseau n'est ubiquitaire et ne peut tout faire. Et le fait de pouvoir comparer des messages qui viennent de tous les réseaux, c'est un service qui transcende tous ces réseaux-là. Donc, il me paraît indispensable.
Bon, Edith Nuss et Philippe Gablin, merci beaucoup pour ce petit moment ensemble. Et au plaisir de vous suivre. Donc, c'est Mighty Watch. Je mettrai tous les liens, comme d'habitude, dans les show notes. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baudry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
The Jim Stroud Podcast explores the discoveries and trends forming the future of our lives. Brain-to-brain communication, robot bosses, microchip implants for workers, and artificial intelligence replacing human workers are all happening now. If you want to know what's happening next, subscribe now to the Jim Stroud Podcast.